France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Retour topographique sur la 75e Berlinale ce samedi dans Plan Large avec Guillaume Ribault, Lionel Bayer et Radou Joud et aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. La 75e édition du Festival International du Film de Berlin se clôt ce soir. On saura dans quelques heures qui, après le Dahomey de Mati Diop et avant lui Sur la Daman de Nicolas Philibert, recevra l'Ours d'Or des mains de Todd Haynes et de son jury. Pas certain qu'il soit encore français cette année, mais sait-on jamais. De la compétition, nous parlerons en fin d'émission avec Mathieu Macheret qui revient à peine de la capitale allemande et qui a tout vu ou presque et nous dira ce qu'elle a raconté et dit du cinéma cette année. De la compétition, nous parlerons aussi auparavant avec deux des cinéastes en lice cette année, le Suisse Lionel Bayer et le Roumain Radou Joud, qui a fait sensation sur la Potsdamer Platz, pas seulement parce qu'il a signé son portrait photographique qui orne, comme ceux de ses consoeurs et confrères, les murs du Berlinale Palast d'un tonitruant et de bonne aloi Fuck Poutine and Trump. Mais ce qui a d'abord fait l'événement en cette année commémoratrice des 80 ans de la libération des camps de la mort nazie et à la veille d'élections législatives qui devraient voir entrer en nombre au Bundestag une cohorte de députés du parti d'extrême droite AfD, ce fut la projection, 40 ans après sa sortie, de la version restaurée de ce monument qu'est le Shoah de Claude Lanzmann, mais aussi d'un film qui en raconte la genèse. Il s'appelle « Je n'avais que le néant ». Il est signé d'un cinéaste qui, comme photographe aussi, a arpenté les mêmes territoires et le même terreau mémoriel que Lanzmann, réalisant notamment de saisissantes photographies du regard, des yeux, des derniers témoins de la Shoah par balle. L'originalité et la force de ce film tient à ce que Guillaume Ribault raconte l'histoire des 12 ans qu'il a fallu à Lanzmann pour aller au bout de son film, uniquement à partir de ses rushs même, 220 heures d'images conservées à l'United States Holocaust Museum. On savait que des rushs non retenus pour Shoah, Lanzmann avait tiré matière de films aussi importants qu'Un vivant qui passe, Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures, Le rapport Karski, Le dernier des injustes ou encore Les quatre sœurs. On découvre qu'ils contenaient aussi leur propre making-of avant même que le cinéaste écrivain ne le raconte dans son livre autobiographique Le Lièvre de Patagonie, livre sur lequel Guillaume Ribault s'est également appuyé en disant lui-même en voix off les mots de Lanzmann. Exemple, nous sommes au tout début du film.
Je voulais filmer, mais je n'avais que le néant. Le sujet de Shoah, c'est la mort même. La radicalité de la mort. Certains soirs, je vivais un calvaire dépourvu de sens, me sentant prêt à abandonner. Mais j'ai toujours tenté, pendant ces 12 années de travail, de regarder sans échappatoire le noir soleil de la Shoah.
Bonjour Guillaume Ribault.
Bonjour.
On pourrait commencer à parler de votre film par son début. Vous montrez Claude Lanzmann dans une voiture, et on imagine qu'il est sur une route polonaise. Il met une cassette dans l'autoradio, on entend le deuxième mouvement de la septième de Beethoven, et puis il dit couper, et puis il recommence. Est-ce que c'était une manière de nous dire d'emblée que Shoah, c'est de la mise en scène ?
Le début de mon film, en fait, je voulais que dès les premières images, que le spectateur comprenne qu'on n'était pas dans une copie de Shoah, qu'on était dans une œuvre en mouvement, en création. Et rien de mieux pour comprendre le travail de Claude Lanzmann, qui n'est pas un travail documentaire, mais un vrai travail d'écriture cinématographique, que de montrer deux prises avec un clap. Ça semble assez simple, mais effectivement, après quelques secondes du film, on comprend qu'il fait une mise en scène prise 99 qui s'arrête prise 100. Il tourne le bouton de l'autoradio, on entend les premières notes, alors que dans Shoah, il n'y a pas de musique. Et là, il était en train de chercher encore. Et on est sur une route forestière à Treblinka, donc tout est posé, le décor, le lieu, l'intention cinématographique.
Ce plan, on le reverra à la fin. Évidemment, il est chargé de toute autre chose et c'est ce trajet que vous filmez. On pourrait presque dire comment Lanzmann a trouvé son film et peut-être même a compris ce qu'il faisait en le faisant.
Oui, en fait, mon film a cette particularité qu'il ne parle pas du Claude Lanzmann de 1985 à la sortie de Shoah, ou bien au contraire. Mon film parle de toute autre chose et j'ai l'impression et j'ai vraiment la vanité de croire que je monte un Claude Lanzmann que les gens ne connaissaient pas. C'est-à-dire un Claude Lanzmann qui ne sait rien. Ce sont presque les premiers mots du film. Il dit « Cette idée n'était pas de moi, je ne savais rien à part un chiffre abstrait ». Et on le découvre par des épiphanies successives tout au long du film que l'homme est en train de comprendre que ce qu'il est en train de faire, il crée une œuvre, mais il ne sait pas. Moi, je ne parle même pas du montage de Shoah. Je parle du début et la fin du tournage. C'était pour moi essentiel parce que mon matériau, ce sont les rushs. Et j'aurais pu faire un film documentaire et j'ai l'impression que mon film est autre chose. Il est un peu hybride parce que j'utilise la manière de réaliser de Claude Lanzmann sans la copier, je l'espère, mais j'utilise sa radicalité. Pas d'image d'archives, pas de musique additionnelle, il n'y a pas un seul fondu enchaîné dans mon film, pas un fondu noir, il n'y a absolument rien. Même le titre du film et mon nom sont à la fin. On est vraiment dans l'homme au travail, l'homme qui cherche et qui finalement trouve.
Il y a malgré tout un drôle d'effet de signature parce qu'on réalise à la fin que la voix qui dit les textes de Lanzmann, qui sortent pour la plupart du Lièvre de Patagonie, c'est la vôtre. Comment est-ce qu'on s'empare de cette langue de Lanzmann comme vous vous êtes emparé de ces images?
Presque par hasard, parce qu'en fait ça ne devait pas être ma voix. Ma voix, en fait, elle me sert lorsque je réalise et que j'écris mes films, au montage, puisque je fais surtout des films d'archives, avec des archives. Je fais moi-même la voix de maquette, parce que c'est plus facile, c'est malléable, etc. Et bizarrement, rien n'était prévu, mais on a fait un visionnage de fin de montage avec des amis, des producteurs, des acteurs, des comédiens, vraiment des gens du milieu pour avoir une vision, parce qu'on s'attaquait quand même à un monument, il fallait faire attention, parce que moi j'ai rencontré des gardiens du temple de Shoah, donc il fallait faire très attention, et j'ai rencontré aussi des gens qui ne l'avaient pas vu, et on a montré le film avec ma voix, maquette. Bizarrement, la radicalité de ma voix avec laquelle je ne joue pas, je ne suis pas un acteur, moi je ne lis pas, mais j'incarne à ma manière. Et je crois que c'est ce qui a fait que tous les gens qui ont vu le film, ne sachant pas que c'était ma voix, ont dit « Mais c'est ça, cette voix. » Parce qu'à la fin, on disait que c'était ma voix. Et là, c'est Mathieu Amalric qui a vu le film, un des premiers, qui découvre que c'est ma voix. Et je lui dis « Mais Mathieu, qu'est-ce que t'en penses ?» La voix, il me fait « Mais t'es pas un acteur, mais c'est super. Tu touches à rien, tu laisses ta voix. » Et c'est à partir de ce moment-là où on a décidé finalement que cette voix, on allait la laisser. Et je pense qu'elle apporte de l'incarnation et une forme de simplicité en même temps, parce que on a fait quelques essais avec des comédiens talentueux, mais le problème c'est qu'il y a toujours le jeu, J-E-U, qui rentre en jeu, justement, et ça pose un problème, non pas de qualité artistique, mais ça pose un problème de crédibilité, parce que mon film est assez radical, finalement, comme l'a été Shoah, et dès qu'on ajoute un artifice, quel qu'il soit, on sent il y a quelque chose en trop. Et peut-être que c'est pour ça. Et que c'est peut-être aussi un réalisateur qui parle d'un autre réalisateur et que ça fonctionne. Je ne sais pas, je crois.
Alors vous avez parlé de monuments, de temples. J'imagine que ce n'est pas sans une certaine crainte ou appréhension qu'on commence à visionner les 220 heures de rush de Shoah. Comment est-ce que vous avez trouvé votre porte d'entrée dans ce temple qui finalement n'en est pas un?
En fait, plus qu'une porte d'entrée, le plus difficile, c'était de trouver une position. C'est-à-dire qu'il y a Shoah, indéboulonnable, rentré à la mémoire du monde de l'UNESCO l'année dernière, tout ce qu'on a écrit sur ce film. Donc j'ai d'abord dû ne pas trop y penser, tout en étant assez écrasé par le poids du film référence. Mais je me suis dit, je ne peux pas être devant Shoah, je ne peux pas être derrière Shoah, je dois trouver une place. J'ai toujours, quand je parle de positionnement, c'est, vous savez, en voiture, quand on conduit, dans le rétroviseur, il y a un angle mort. La voiture est là, mais on la voit pas. Quand j'ai compris que je devais être là, dans cet angle, sans vouloir copier, sans vouloir prendre le pas, sans vouloir utiliser Shoah à mon propre profit, parce que Dominique Lanzmann est quand même coproductrice du film, et j'avais besoin de son accord dès le départ, avec Estelle Fialon, toutes les deux, elles ont vraiment été très importantes pour moi. Mais Dominique Lanzmann, elle, j'ai vraiment dû la convaincre que je n'étais pas en train de m'approprier Shoah. Donc, tout était une histoire de position. Et quand j'ai compris que ma position était là, Shoah est là, oublie-le, mais respecte-le sans être servile. En plus, moi, je ne raconte pas l'histoire que raconte Shoah. Shoah, le cadre, c'est le génocide. Moi, le cadre, c'est le cinéma et la recherche de la vérité. Et un homme au travail, c'est une forme d'enquête policière, en fait.
Et pourtant, il y a une émotion dans votre film qui est redoublée, évidemment, quand on a vu Shoah. On est très troublé, par exemple, de la première apparition d'un Simon Chrebnik. C'est celui qui chante sur sa barque dans Shoah. Et on le voit en Israël jouer avec ses petits-enfants, les pousser sur la balançoire. Et déjà, il lui raconte quelque chose à Lanzmann, sauf que Lanzmann, à ce moment-là, ne peut pas entendre, ne peut pas comprendre ce qu'il y a. On est très ému aussi de voir la première fois qu'Abraham Bomba apparaît devant la caméra avant la scène célèbre du salon de coiffure. Sauf que là encore, il ne trouve pas. J'imagine que vous-même, quand vous les avez vus apparaître dans ces rushs, ça a dû vous provoquer le même choc que ça fait aux spectateurs de votre film.
Oui. Le choc était peut-être un peu atténué parce que j'avais déjà les mots de Claude Lanzmann. Donc je comprenais d'où venaient ces rushs et que, en fait, sa mémoire photographique faisait qu'il racontait un petit peu ce qu'il avait vécu. Et moi, j'en avais la preuve par l'image. Moi, j'ai eu d'abord les mots de Claude Lanzmann et ensuite j'ai eu ces images. Mais effectivement, Simon Chrebnik, qui est la scène d'ouverture de Shoah absolument magnifique, que moi je décortique à un moment du film où on comprend qu'il lui fait répéter. Simon Chrebnik en a assez à un moment, il souffle. Enfin, c'est un moment assez drôle, alors que c'est un moment assez intense du film. Donc moi je suis toujours un petit peu décalé par rapport à ça. Mais le moment où il apparaît dans mon film, c'était la chose la plus difficile à trouver sur le plan scénaristique. Comment faire rentrer un homme comme Simon Chrebnik, qui est central hein, dans le film Shoah. Il est évoqué dans le déroulant de début, etc. Mais moi je ne savais pas, mais en fait j'ai compris que cette idée, ces épiphanies successives, quand Claude Lanzmann comprend comment son film doit se construire au fur et à mesure, Simon Chrebnik, au début, il ne le comprend pas. Il sait juste qu'il chantait sur une barque pour son garde-SS. Et à la fin, on le retrouve sur la barque en train de chanter. Et c'est ça le parcours, la parabole de Claude Lanzmann, c'est d'avoir compris les gens qu'il avait en face de lui, que ce soit des témoins, des victimes ou des assassins.
Il y a une scène aussi qui est très, très bouleversante dans votre film. Vous montrez la fatigue aussi de Lanzmann, vous montrez ses doutes, mais vous montrez l'état d'épuisement dans lequel il est. Et à la fin du film, il rencontre Antek. Antek qui était un des chefs de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et le grand geste lanzmannien qu'on voit souvent, c'est Lanzmann qui prend la main de quelqu'un, qui le prend dans ses bras, qui le réconforte. Et là, tout d'un coup, la position est inversée. Lanzmann devient un petit enfant qu'il faut consoler.
Oui, là, Lanzmann, qui est un colosse, a trouvé plus fort que lui. Itzhak Zuckerman, de son nom de guerre Antek, a été le commandant second de la révolte du ghetto de Varsovie. Et là, il a en face de lui quelqu'un qui le dépasse et quelqu'un qui le remet, en fait, à sa place, si vous me permettez l'expression. Et quand il lui dit « Mais qu'espérez-vous sauver en faisant ce film ?» Et là, on est à la limite, on est au moment de bascule où Lanzmann comprend que je fais un film, mais Shoah n'est encore pas sorti, n'oublions pas. Et là, on voit par la force physique d'Antek, qui a la cruauté de lui dire « Je suis un ivrogne, je bois parce que j'ai tellement vu, si vous léchiez mon cœur, vous seriez empoisonné », la phrase fameuse de Shoah. Et on voit bien que physiquement, Lanzmann est totalement atteint. Et il y a un moment, ce n'est plus lui qui tient la main, mais c'est l'autre qui lui tape sur l'épaule.
Il lui dit à ce moment-là « Ma petite tragédie, c'est que je fais un film, j'ai besoin de visage humain ». Pour raconter ça, et vous citez aussi d'autres mots de Lanzmann, il dit « Shoah montre des yeux qui ont vu la mort ». À ce moment-là, il y a un zoom sur le regard de Simon Chrebnik, et juste après, vous mettez un plan de Claude Lanzmann. C'est-à-dire que ce sont deux regards qui s'accolent l'un à l'autre.
Les mots exacts du film, c'est « Shoah montre des yeux qui ont vu ». En fait, Lanzmann a vu des yeux qui ont vu, et c'est ça la puissance de son film, et c'est ça la puissance de la transmission. Moi, je me comparerai jamais à Claude Lanzmann, mais dans mon parcours personnel, par mes enquêtes en Ukraine, dans les villages, etc., moi, j'ai rencontré 1000 témoins en Ukraine, et j'étais photographe à l'époque, et j'utilisais un téléobjectif pour capter leur regard aussi. Et comme Lanzmann, moi aussi, en toute modestie, j'ai rencontré 1000 témoins, 1000 pères d'yeux qui ont vu, et c'était ces gens, quand ils nous parlaient, qu'ils nous donnaient leurs témoignages des exactions qui étaient commises dans les villages par les Einsatzgruppen, ont capté dans le regard quelque chose de leur enfance. À ce moment-là, c'était des gens qui revivaient leur passé, et je pense que Lanzmann l'a fait de la plus grande des manières, et j'espère que mon film explore ces moments où on comprend mieux les scènes, qu'on comprend parfois intuitivement dans Shoah.
Et on comprend aussi comment Lanzmann, qui n'avait que le néant, qui n'avait rien à filmer, a su non seulement trouver des images à filmer, mais créer chez le spectateur des images invisibles, hein, ce que Lanzmann appelle halluciner. Je me suis halluciné, il parle du conducteur du train qu'on voit, comment lui-même hallucine les 60 wagons qu'il y a derrière. Or, le spectateur les voit, ces 60 wagons.
Je pense que c'est la force de la mise en scène, la force de Shoah, c'est de procurer des images invisibles, des images hallucinées. Et c'est aussi le parfait pendant à son souhait de réalisation de ne pas intégrer des images aveuglantes, comme les images d'archives qu'on voit tous, qu'on connaît tous, et qui ont parfois un effet répulsif même pour comprendre. On nous impose une image affreuse, horrible, insupportable, et notre intellect n'arrive pas à entrer en empathie avec la victime ou le témoignage, alors que lui, il dit « il fallait que je revive cette histoire au présent, il fallait que je m'hallucine », et parce qu'il devait recréer le passé avec le présent, et ça je pense que c'est la force du cinéma en fait, vraiment, Claude Lanzmann fait du pur cinéma.
Vous vous adressez, j'imagine, à deux sortes de spectateurs, ceux qui ont vu Shoah et ceux qui ne l'ont pas vu. Comment est-ce que vous avez joué justement sur ces deux registres, puisque finalement il y a la prolongation de Shoah et ce qu'il y a entre les images de Shoah pour ceux qui l'ont vu, et puis peut-être donner envie ou créer le besoin chez un spectateur de voir Shoah?
J'avais beaucoup plus peur des gardiens du temple en fait que de ceux qui ne l'ont pas vu, parce que j'espère que mon film sera un pont pour ceux qui n'ont pas vu Shoah. On l'a montré à des adolescents qui ne connaissaient pas ni Claude Lanzmann ni le film Shoah, et peut-être la manière dont j'ai fait mon film leur a donné cette envie de découvrir un homme qu'ils ne connaissaient pas. Mais je vais vous parler d'un gardien du temple que vous connaissez, c'est Arnaud Desplechin. Et Arnaud Desplechin est venu par les films du Poisson avec et Dominique Lanzmann. Ils ont organisé une séance et son dernier film, Le Spectateur, justement, il parle et il filme chez Claude Lanzmann, etc. Et j'avais très très peur en fait de sa réaction, parce que c'est un adorateur. Il a écrit un magnifique texte sur Shoah dans l'infini. Enfin, il est absolument incroyable. Et puis c'est un grand réalisateur en plus. Donc j'étais assez impressionné. Et Arnaud a été, je pense, je sais pas si toucher c'est le mot, c'est pas à moi de le dire, mais il a compris ma démarche et il m'a dit des mots qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont fait comprendre que un si grand cinéaste qui parle du film que j'ai fait avec les mots qu'il a employés, c'était vraiment très agréable.
Merci beaucoup, Guillaume Primeau.
Merci beaucoup.
Pas encore de date de sortie annoncée pour Je n'avais que le néant. Le film de Guillaume Ribeau passera d'abord sur Arte, puis sortira en salle, on imagine, à l'automne, pourquoi pas pour le centenaire de Claude Lanzmann. En même temps, sans doute que son Shoah en version restaurée, on ne manquera évidemment pas de s'en faire l'écho ici. Et ici, c'est Plan Large sur France Culture, de retour de la 75e Berlinale. En compétition cette année, on a été assez sensible au film du Suisse Lionel Bayer, et pas seulement parce qu'il n'est pas sans lien avec ce dont nous venons de parler, puisqu'au cœur de ce portrait de famille et de l'étude topographique, là encore, de l'appartement parisien où elle habite, il y a une cache, la cache qui donne son nom au film et où, pendant la Seconde Guerre mondiale, se planqua des lois antisémites et des rafles de la police française, le patriarche de la dite famille, un juif d'Odessa, pourtant converti au catholicisme. C'est Michel Blanc qui l'incarne dans ce qui restera son tout dernier rôle. Lionel Bayer adapte le livre éponyme de Christophe Boltanski, qui racontait cette famille d'exception et autant couleur qui est la sienne, qui, outre le journaliste et écrivain qu'il est, comportait une autre journaliste et écrivaine, sa grand-mère, et des oncles, linguistes, sociologues ou plasticiens, sans oublier une aïeule fantasque et volontiers mythomane, interprétée avec le génie loufoque qu'on lui connaît, par la grande Liliane Rover. Mais le cinéaste suisse le fait en condensant ce récit foisonnant dans un moment qui n'occupe que quelques lignes dans le livre, mai 68, avec un ton antinaturaliste revendiqué et une utilisation manifeste du studio et de tous les artifices du cinéma. Il s'en explique après quelques aperçus sonores de son film.
Il y a eu des coups de feu, non?
C'est les Boches.
Ça t'embête pas de rester rue de Grenelle encore un peu? On est en train de changer l'avenir, c'est compliqué, je t'expliquerai.
Ok.
Tiens, ça fortifie les cheveux.
Voilà. Prise d'assaut par les CRS.
Depuis quand on se soucie des SS?
Tu parles des CRS, hein, pas des SS.
J'aimerais simplement que quelqu'un me dise c'est beau avec sincérité.
Mais c'est beau!
Quelqu'un du dehors.
Tu veux fumer?
Non,
non, je peux pas fumer. Ah, c'est chic.
C'est ça que je veux.
Ah bon?
Je me demande ce que vont dire les profs.
C'est une étoile de shérif.
Il suffirait d'enlever la...
Qu'est-ce que tu fais là?
Il y a un chat caché là-dessous.
Quand je me suis glissé dans cette cache, c'était en 1942.
Je ne pensais y passer que quelques semaines.
Très bien.
Lionel Bayer, bonjour.
Bonjour.
On est toujours surpris qu'un Suisse s'intéresse à mai 68 et comment ça a été vu de Suisse d'ailleurs. Mai 68, pourquoi est-ce que ce moment était intéressant pour vous ?
D'abord, je crois que mai 68, c'est un phénomène qui s'inscrit dans un renouvellement et un changement de société assez fondamental dans les années 60. Donc les Suisses l'ont vécu de manière un peu différente et un peu plus tard pour d'autres raisons, puisque la génération de gens qui avaient 20 ans n'était pas directement liée à des gens qui avait fait la guerre et sur laquelle on pouvait se retourner vers ses parents pour dire est-ce que vous avez été, de quel côté avez-vous été et qu'est-ce qu'a fait notre pays pendant la guerre. La conscience, par exemple, de la Suisse par rapport à la déportation et à la collaboration avec le régime nazi, elle vient 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, puisque les Suisses font leur examen de conscience dans les années 90. Donc c'était plus ce qui m'intéressait. Pour moi, c'est un film français, c'est un film qui raconte quelque chose de la France. Je vis ici depuis 17 ans, donc c'était raconter quelque chose sur un pays qui est un peu le mien sans être le mien. Mais il y avait quelque chose qui était une sorte de réveil de l'inconscient français. La chose qui est étonnante avec ce pays-là particulièrement, c'est que le général de Gaulle, en revenant, il produit une vraie fake news. Il dit la France a été libérée par les Français et la France est dans le clan des vainqueurs. Et d'ailleurs, oublions les passions du régime de Vichy pour dire que d'une certaine façon, nous avons tous gagné et la France s'est libérée. C'est une force évocatrice et comme je crois à la linguistique et je crois à la psychanalyse, je me dis c'est d'une force incroyable. En fait, on fait basculer un peuple par une parole dans le clan des vainqueurs. Oui, mais l'inconscient, il subsiste toujours. Et en fait, ce qui est intéressant en 68, c'est que ça réveille tout ça. C'est-à-dire les gens qui manifestent se posent la question de quelle a été la France de laquelle on vient, qu'ont fait nos parents, donc ça réveille cette chose-là. Et la droite aussi, en fait, se sont de nouveau réinvestis de quelque chose avec le retour de Gaulle, sur le retour à l'ordre, en tout cas le retour à la tradition. Qu'est-ce qui fait la France, en fait, dans le fond ? Est-ce que ces changements ne vont pas dénaturer quelque chose qui est fondamentalement français ? Et cette question du fondamentalement français, elle se rapporte aussi à c'était quoi être fondamentalement français entre 39 et 45. Donc du coup, j'ai l'impression que cet événement-là, il réveillait quelque chose qui, pour la famille des Boltanski et peut-être pour la personne la plus âgée, qui est le personnage de l'arrière-grand-mère, devait rappeler l'occupation, c'est-à-dire des émeutes dans la rue, les privations, les magasins fermés, le métro qui ne fonctionne plus, etc. Et je me dis comment cet inconscient retravaille la famille et comment est-ce qu'elle se protège de cet inconscient-là. Pour moi, la famille Boltanski, quand j'ai lu le livre, je me suis vraiment dit c'est l'histoire d'une famille française sur un siècle et ça raconte quelque chose fondamentalement de français, c'est-à-dire le métissage, le travail d'adaptation à la modernité, quand on vient d'un pays aussi fort de par son histoire et de par sa tradition, comment est-ce qu'on s'adapte au temps qui change ? Et comment est-ce qu'on s'adapte après ce qui s'est passé en 39 et 45. Donc ça me semblait assez propice à ça. Et puis c'est une période de temps qui est assez qui est circonscrite dans la tête des gens. Ça commence le 3 mai, ça se finit avec la disparition de De Gaulle et les manifestations sur les Champs-Élysées pour le retour de De Gaulle. Et donc c'est quelque chose qui est assez carré et qui, à l'international, tout le monde sait ce que c'est en fait. C'est à un moment donné où la France aussi donne le là de qu'est-ce que c'est que la révolution à la jeunesse à ce moment-là. Donc j'ai l'impression que c'était assez visuel pour que ça existe dans un film.
Mais c'est une jeunesse, dans cette famille en particulier, qui tout d'un coup va aussi se découvrir juive, puisque le livre, comme le film s'appelle La Cache, on pourrait l'appeler Le Refoulé aussi, enfin ce qui est caché précisément. Et il y a ce petit garçon qui va demander qu'est-ce que ça veut dire être juif, on lui explique, on l'a traité de youpin. Et lui, il va dire, tant qu'à faire, je préfère être un youpin qu'un juif. Comment est-ce qu'on fait dire ça à un petit garçon de 9 ans ?
Ben, ça raconte, c'est là où le livre traitait deux choses qui, moi, m'intéressaient. C'était comment parler de la Shoah et en disant qu'elle, pas uniquement de l'identité juive, mais vraiment de la Shoah, puisque le grand-père s'est caché, donc il a échappé aux rafles de 42 et 43. C'est comment est-ce qu'on arrive à raconter quelque chose de cette époque sans avoir à filmer l'occupation et des costumes d'époque, ce qui était pour moi complètement impensable, je ne voulais pas. Et puis cette idée en fait de la religion ou de l'identité juive et du refoulé, elle est très présente dans l'histoire de ma famille. J'ai une famille qui vient de Pologne et quand on remonte là, on se rend compte qu'il y a évidemment des origines de gens qui étaient juifs et que c'est quelque chose qui était complètement pas dit dans ma famille, mais pas verbalisé du tout. Par un désir d'assimilation, je pense, très très grand de la part de mes grands-parents. Et puis, juste comme ça se fait souvent, effectivement, et peut-être particulièrement chez les Suisses, cette question du religieux, elle ne se pose pas du tout, en fait. Elle est même indigente de la poser. Mais je me disais, ça existe. Et en fait, je ne dirais jamais que je ne suis pas du tout juif, et ma famille n'est pas juive. Malgré tout, il y a des juifs dans ma famille. Et à un moment donné, il y a eu l'envie d'aller rechercher comment tout cela fonctionnait, comme Christophe Boltanski l'a fait quand il est parti à Odessa pour savoir d'où venait sa famille. Et vous vous ramassez toujours à un endroit où il y a une zone d'ombre, de non-dit, de choses qui ont été cachées, qui ont été transformées, de mensonges, évidemment, pour s'adapter à n'importe quel migrant ment sur ses origines. Et je me disais, à un moment donné, on reconstitue soi-même à quoi on décide d'appartenir. Et une religion comme la religion juive, elle est liée au son et à la transmission par les mères, donc c'est assez compliqué en fait de dire on est juif ou on l'est pas en fait, dans le fond. Et je trouvais beau que la force d'invention du livre et aussi la force d'invention des Boltanski, c'était de se dire on est ce qu'on veut. En fait, on est défini comme on veut. Quelque chose auquel je crois, mais presque avec un point de vue presque lacanien, quoi, de se dire si je dis que je suis juif, je le deviens. Et le petit garçon, dans son incompréhension, puisque c'est les voisins, effectivement, les traitent de youpin, de dire ben, je prendrai le parti pour le peuple juif là où il est le plus attaqué. Il est très facile de dire je suis juif quand c'est, on n'est pas dans une période de danger. Il est beaucoup plus difficile de le faire quand on vous appelle youpin. Et il est beaucoup plus difficile aujourd'hui, même par rapport à l'amalgame fumeux que les gens font entre la politique de Netanyahou israélienne et la religion juive ou les juifs en France, de faire un amalgame. Et donc c'est plus difficile aujourd'hui de dire je suis juif sans être mal regardé qu'il y a de cela 3 ans en arrière, 5 ans ou 10 ans en arrière. Et je trouve le fait qu'ils disent je préfère être youpin que juif, c'est une certaine façon de dire je prendrai l'identité là où elle sera, quand elle sera le plus attaquée. Alors je la sortirai pour dire dans le fond je suis juif. Et je comprends ça tout à fait parce que moi jamais je dirais ça, parce que je ne le suis pas, je ne suis pas juif. Mais si un jour on décide de persécuter à nouveau les juifs, alors je dirais je suis youpin et oui je suis juif et à ce moment-là je ressortirai mes origines. Comme l'a fait, ce qui est beau avec Étienne Boltanski, c'est que lui pensait échapper aux lois raciales de Vichy parce qu'il était devenu catholique. Et que par sentiment d'appartenance à la France et de loyauté en fait à la France, en se disant la France est la fille aînée de l'Église catholique, si je veux vraiment être français, il faut que je devienne catholique, sans renoncer au fait d'avoir été juif. Mais il a fait cette espèce de trahison pour beaucoup, hein, de se dire il a renoncé à sa religion. En tout cas, quand on est catholique, on doit renoncer à toute forme, autre forme de croyance. Il l'a fait tout en restant profondément juif dans ce qu'il était culturellement. Mais par contre, je trouve ça beau que ça n'ait pas suffi. Pour Vichy, ça ne suffisait pas. Vous aviez du sang juif. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que c'est que du sang religieux? J'en sais rien. Mais dans leur tête, il y avait du sang juif, donc ils restaient juifs. Donc, toute cette question-là, entre la vérité, l'invention, le mensonge, et surtout quand vous venez d'une famille qui est issue de l'immigration, la force de la fiction, elle est plus grande que la force de la réalité historique, je pense.
Vous êtes dans le film, vous, à plusieurs registres, vous l'avez dit, sur des origines que vous pouvez avoir, qui vous font résonner avec cette histoire. Vous êtes là aussi en tant qu'adaptateur, c'est-à-dire qu'on voit dès le début le livre annoter ce que vous allez essayer de retenir. Vous êtes là comme narrateur. Et puis vous êtes là aussi comme le voisin, le fameux voisin qui traite cette famille de youpin. Comment est-ce que vous avez trouvé votre place comme ça dans le film, où c'est comme si vous l'entouriez de partout?
Alors la voix off, c'est pour vous dire la vérité, on a essayé, je pense, là, le film a été mixé le 31 janvier, donc c'était il y a un mois presque. Je pense jusqu'au 27 janvier, j'ai essayé toutes les solutions possibles pour que ce soit pas ma voix dans le film. On disait, on a essayé, ça devait être d'abord un personnage, après c'était plus un personnage, après on s'est dit, ça peut être la voix de quelqu'un complètement de l'extérieur, serait bien si c'était la voix d'une femme parce que ça troublerait le truc. Et au final, en fait, j'ai dit, mais voilà, à un moment donné, je parle au début de la raison pour laquelle j'adapte et il faut dire que c'est une adaptation et à quel point le film est loin d'une adaptation. Et puis le rapport intertextuel entre le livre et le film, moi ça m'a toujours intéressé en plus de se dire c'est compliqué cette espèce de rapport qui a un langage et puis le cinéma qui n'en est plus vraiment un ou qui a de la peine à être complètement un langage en tant que tel et qui travaille une autre langue qui est celle du livre, ça m'intéressait que ce soit thématisé presque au début du film. Le jouer le voisin, ça c'était un plaisir que j'ai eu depuis le début puisque c'est toujours beaucoup plus agréable et intéressant de jouer les gens horribles et il a une réplique comme ça où à un moment donné un petit garçon a repris la petite veste sur laquelle est cousue une étoile de David et puis il lui dit t'es un très joli petit costume et Didier qui dit petit costume pour parler de cette croix, de cette étoile puis de dire, de traiter juste de snob en disant faut toujours qu'il se fasse remarquer etc. Je me dis voilà une vraie dégueulasserie qui est très agréable d'écrire et de dire parce que c'est toujours beaucoup plus amusant et intéressant que l'insulte qui est trop facile et trop directe. Là c'est beaucoup plus perfide et c'est vrai que ce personnage aussi me rappelle peut-être ce rapport incroyablement condescendant et donneur de leçons que les Suisses peuvent avoir. Donc c'est peut-être un personnage qui est très français dans le scénario, mais qui est aussi peut-être très suisse d'une certaine façon.
Ce que raconte le film, c'est aussi le passage d'un artiste, Christian Boltanski, de la peinture figurative à l'installation, à tout ce qu'il va faire après. Et vous-même, dans ce film, vous êtes dans une artificialité revendiquée, en permanence. On n'oublie jamais qu'on regarde un film, une représentation. Il y a notamment ce jeu avec les transparences s'arrêtent quand la voiture s'arrête. On voit même les amorces derrière. Vous allez jusqu'au monochrome par moment derrière. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, y compris en tournant en studio, et ne le cachant pas trop finalement qu'on est dans un studio, montrer à ce point le processus de création presque de votre film?
Parce que c'est, comme vous le dites, c'est quelque chose qui traverse la famille, qui traverse l'époque aussi. Quand on parle de Jean-Élie Boltanski, qui était linguiste, tout le travail en fait sur la langue qu'il fallait déconstruire, qu'il fallait interroger, sur l'art qui se pose la question de la modernité, comment est-ce qu'il se fait, qu'est-ce qu'il raconte sur lui-même, etc. Je me disais, ce serait dommage que d'une certaine façon, ce ne soit pas présent dans le film, parce que c'est lié aussi à une explication de l'époque. C'est-à-dire cette espèce de plaisir à déconstruire ou à montrer les rouages d'eux. C'est aussi quelque chose qui a vraiment traversé cette génération. Et quand aujourd'hui les mouvements conservateurs rejettent en bloc tout 68 en disant ça n'a rien apporté, ou ça n'a apporté que du chaos, que du désordre, en disant mais vous oubliez, même si on pouvait, admettons qu'on soit d'accord avec cette idée, en fait, que la société conservatrice, il était bien meilleur d'y vivre à l'époque que nos sociétés plus libérales. Admettons cette chose-là, qui est évidemment une hérésie de mon point de vue, vous oubliez à quel point est-ce que la question sur le pourquoi du comment et le plaisir de l'interrogation a nourri quand même une pensée critique qui a renouvelé quelque chose de très français, qui est le plaisir de la dispute. Et le plaisir de la dispute, il était très vertical pendant longtemps, issu des Lumières, issu des classes sociales, issu d'une discussion liée à l'université. Et d'un seul coup, la sortie des universités dans la rue a produit une horizontalité dans la discussion que la France cultive encore, et quelque chose qui vient de 68. Et ça s'est accompagné d'une déconstruction en fait de la langue, de comment est-ce qu'on écrivait. Le nouveau roman précède mai 68, la nouvelle vague précède mai 68. Mais en fait, mai 68 est juste une façon d'accorder tout ça. La discussion, la fameuse conférence de presse de Cannes en mai 68 où on fait grève, où on voit Truffaut, Godard, Louis Malle, etc., avec cette discussion en disant le cinéma ne peut que suivre les manifestations, c'est vrai, se poser la question de faut-il tenir le festival de Cannes, mais en fait, elle les avait précédées. C'est parce qu'il y a eu le nouveau roman, qu'il y a eu la musique sérielle, qu'il y a eu Boulez, qu'il y a eu tout ça, que mai 68 est arrivé. Et donc, je me disais, il faut montrer que l'art n'a pas arrêté de circuler dedans. Et que c'est pas aussi clair que ça dans la biographie de Christian Boltanski, que 68 a produit ce changement, c'était déjà arrivé un peu plus tôt pour lui. Mais je pense que c'est quelqu'un, évidemment, qui se considère comme peintre, d'abord comme Fromager pouvait l'être, par exemple, et puis qui se pose la question de l'installation, et donc globalement aussi d'un art qui se démultiplierait sur plusieurs supports, et qui annonce, en fait, le multimédia. Ces gens, le travail de Boltanski commence à annoncer l'idée du musée imaginaire, de Malraux, enfin toutes ces choses, le collage de choses qui n'auraient rien à voir les unes avec les autres et qui seraient assemblées à un endroit. Et je me suis dit, il fallait que le film fasse ça avec aussi une, peut-être, ça c'est quelque chose de plus personnel, mais pour moi c'est lié aussi à un essor de la bande dessinée franco-belge. Je suis un grand admirateur du travail de Franquin, et donc il y avait une volonté dans le film non seulement de le citer parce que Gaston Lagaffe est un personnage qui apparaît à ce moment-là, qui est vraiment un personnage 68-art en fait, sans le dire, puisqu'il ne fait pas de politique, mais qui se pose la question du travail, qui se pose la question du loisir, du bien-être, de l'écologie, qui sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Et je me disais, c'était bien que le film emprunte aussi à, donne la référence de Franquin, qui est quelqu'un dont je m'inspire depuis plusieurs films, ne serait-ce pour des histoires de cadrage ou de rapport en fait au personnage dans le cadre. Donc je me disais, c'est une bonne occasion pour faire vraiment exister cette vague BD dans le film aussi.
Merci beaucoup, Lionel Bayle.
Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Alléluia, alléluia,
alléluia, alléluia.
La Cache de Lionel Bayer sortira en salle française le 19 mars prochain. Vous écoutez toujours France Culture pour un plan large de retour de la 75e édition du Festival International du Film de Berlin, et on ne serait pas très étonné que ce soir soit récompensé un des films les plus enthousiasmants qui nous a été donné d'y voir. Il s'appelle Continental 25, il est signé du roumain Radu Jude, que nous avons souvent reçu dans cette émission, dernièrement pour ses déjà formidables Bad Luck Banging or Loony Porn, ou N'attendez pas trop de la fin du monde, tant il est un des plus passionnants, inventifs et incisifs cinéastes d'aujourd'hui. Son nouveau film, tourné en 10 jours avec un iPhone 15, en même temps qu'il réalisait une relecture très iconoclaste de Dracula, et qu'on imagine bien voir au prochain Festival de Cannes, réalisé à Cluj, la capitale de la Transylvanie, dont il dresse également dans ce film le portrait architectural. Continental 25 donc raconte la crise morale d'un pays, le sien, voire d'un continent, l'Europe, et d'une femme en particulier, une huissière de justice qui ne se remet pas du suicide d'un vieil homme, un clochard hirsute et mal embouché, après qu'elle lui a signifié son éviction du gourbi sordide où il se réfugiait et sur lequel une chaîne d'hôtels allemandes compte construire un hôtel branché. Entre crispation identitaire, vieux remugle d'antisémitisme et compromission généralisée, qu'on le veuille ou non, avec l'ultralibéralisme contemporain, Radu Jude signe une fois encore un grand film, plus posé que les précédents, qui résonne avec un auguste ancêtre d'il y a presque 75 ans, l'âge de la Berlinale précisément.
Acum, am luat o cafea și după ce am terminat cafea, nu știu ce, ne-am întors și când am ajuns, am ciocnit, am intrat și l-am văzut spânzurat de calorifer.
Bonjour, Radu Jude.
Bonjour.
Une femme bouleversée par la mort d'un innocent, prise par la culpabilité, par ce sentiment de culpabilité, ça nous rappelle un film, il y a 75 ans. Quel lien y a-t-il entre ce Continental 25 et l'Europe 51 de Roberto Rossellini, Radu Jude?
Bon, c'est difficile à faire un lien simple comme ça. Je dirais plutôt que mon film s'est un peu inspiré par des cas réels que j'ai lus ici ou là, et après j'ai fait un peu de recherche autour de ça. Et j'avais découvert pendant des années, parce que c'est un projet assez vieux déjà, et que j'ai pas réussi pour des années de le faire, j'avais découvert une certaine liaison, si vous voulez, lointaine et oblique, avec les thèmes de Rossellini, les thèmes que vous avez très bien décrits. Et je me suis dit, comment ça serait une représentation de ces problèmes dans la Roumanie d'aujourd'hui, avec les problèmes d'aujourd'hui, avec et sans les solutions qui moins ou plus existaient dans le film de Rossellini, ça veut dire l'église catholique, même si, bon, l'église orthodoxe existe un peu dans mon film, mais je pense que c'est une institution très corrompue et qui ne va pas grand-chose, et sans le Parti communiste qui était important pour Rossellini et pour certains Italiens à l'époque, mais qui en Roumanie a été totalement compromis par la longue dictature communiste. Donc c'est un essai autour de voir comment ces thèmes, quelle forme peuvent-elles prendre. Et bon, ça c'est une possible réponse.
On peut dire que votre personnage, Orsolia, justement, cherche des secours qui soient à la fois spirituels, philosophiques, politiques, et a beaucoup de mal à les trouver dans la Roumanie, mais on pourrait dire dans l'Europe d'aujourd'hui et dans le monde d'aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y a dans le film, je pense, ou j'espère, une dimension d'analyse de la moralité, mais c'est aussi une analyse de cette moralité en liaison avec le problème matériel ou l'économie, si vous voulez. C'est comme l'espace où la moralité se joue, c'est l'espace économique d'une certaine manière. Donc, j'ai l'impression, si je peux juger un peu mon personnage, ou analyser, je ne veux pas dire juger, que d'une certaine manière, elle cherche des réponses à des problèmes sur un terrain où il n'y a pas ces réponses. Et je pense qu'elle devait, si vous voulez, chercher ces solutions, réponses dans une autre place, peut-être dans l'économique, dans l'historique, dans la politique, dans le sens plus large. Et l'autre chose, c'est bien sûr que c'est cette notion de culpabilité diffuse, si je peux me permettre de dire comme ça, parce que je pense que chacun d'entre nous, je m'imagine, je ne sais pas, je ne veux pas généraliser, sent qu'on est tous coupables, ou si c'est pas tous, que chacun d'entre nous a une partie de culpabilité dans une certaine situation. Maintenant, on voit ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec l'extrême droite en Amérique, non, avec Trump. Et, bon, c'est qui est le coupable de ça? Et peut-être qu'on sent tous que, bon, moi peut-être un peu, les autres peut-être un peu plus, les autres un peu moins, mais c'est un peu autour de ça, de ce problème, d'une certaine manière, sans réponse. Mais je pense, comme Rivette, comme il est un grand maître pour moi, comme cinéaste, mais peut-être plus comme essayiste du cinéma et critique, quand il disait qu'on doit commencer avec l'art de la description. Donc, d'une certaine manière, je voulais seulement décrire une certaine société, un certain système d'existence, de fonctionnement et les problèmes éthiques qui ce système génère d'une certaine manière.
Vous avez parlé de Rivette. Moi, j'ai pensé à d'autres héritiers de Rossellini, dont on sait l'importance qu'il a eue pour la nouvelle vague en France. J'ai pensé à Romère, parce que vous n'avez pas peur, comme lui, de filmer longuement des conversations qui sont parfois assez précisément philosophiques ou même théologiques par moments. Et j'ai eu vraiment l'impression que c'était un des films les plus posés que vous avez fait, puisque souvent, ces conversations, vous les filmez en plan séquence et plan fixe, et c'est tout d'un coup de la parole que vous filmez.
Ah, oui, merci beaucoup pour dire ça, parce que j'avais oublié. Oui, je pense que c'est un côté romérien. Si Romère faisait des films où il y avait aussi des thèmes un peu, on peut dire, un peu sociaux, politiques, économiques, et pas seulement moraux et sur des relations. Mais quand même, j'aime énormément Romère comme cinéaste. Je dois dire deux choses sur ça. Le premier, c'est que c'est aussi mon désir d'aller de plus en plus vers le début, vers les formes primitives, si on peut dire, du cinéma. Donc, j'ai pensé à ces films comme au retour dans la mise en scène, au retour à lumière. C'est comme les mises en scène sont assez simples, comme le déjeuner d'un bébé ou l'arroseur arrosé. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça me donnait un vrai plaisir de faire des mises en scène comme ça. Et aussi, une autre chose sur ce qu'on nomme la mise en scène, qui bien sûr, c'est le concept clé pour la réalisation des films. Et j'ai trouvé la très belle définition de mise en scène dans un texte de Lucian Pintilie, qui a été un grand réalisateur roumain, le plus grand cinéaste roumain. Et Pintilie disait quelque chose que je trouve très, très intéressant. Il résumait la mise en scène comme ce qu'il y a au-delà des mots. Et je me suis dit, bon, ok, c'est ça une définition, c'est ça la mise en scène. C'est, il y a des mots, les mots de scénario, les mots de dialogue. Et la mise en scène, c'est qu'au-delà ou en plus de ça. Mais je me suis dit, mais non, je veux faire une mise en scène où c'est les paroles et la mise en scène des paroles qui est l'essentiel de film. Et c'était cette idée. C'est pour ça que j'ai mis très peu de gestes dans les comédiens, très peu de mouvements ou de mises en scène compliquées, ou c'est une mise en scène réduite au minimum. Et c'est aussi une question, je pense, que la plupart de ces problèmes dans notre interaction humaine, c'est la base, c'est la parole. Mais je trouve aussi, ou j'essayais aussi de faire, même si ce n'est pas très évident, un film de montage aussi, parce que ces paroles sont tout le temps interrompues par des images simples des bâtiments. C'est comme l'histoire des bâtiments de cette ville de Transylvanie. Et bien sûr, l'interprétation de ces bâtiments qui, à la fin, ces images envahissent le film, c'est très ouverte. Mais une idée qui m'est venue en effet après, c'est cette idée de Bible qui dit « quand les gens ne parlent pas, c'est les pierres ». Qui vont parler, qui vont crier. Donc, je pense que comme c'est un film aussi sur les problèmes qui viennent de la propriété immobilière des pierres, donc c'est les bâtiments, c'est les pierres qui disent l'histoire d'une certaine manière.
Ça aussi, ça m'a fait penser à Éric Rohmer, parce qu'on sait l'intérêt qu'il avait pour l'architecture. On se souvient de ses films sur le béton, on se souvient de L'ami de mon ami, qui était aussi une étude de ville à Cergy Pontoise. Et on a le sentiment que vous utilisez précisément ces bâtiments comme une matière cinématographique, parce qu'ils ont une épaisseur historique et qu'ils racontent aussi beaucoup de choses par leur beauté ou leur laideur.
Par leur beauté, par leur laideur et parfois par leur existence même dans un espace où il n'y a pas d'autres choses. C'est un peu le désir, je ne sais pas si l'été est aussi ou pas, d'essayer de faire le spectateur de voir une image comme un bâtiment et d'imaginer, à cause de l'autre, les autres côtés de l'histoire, ce qu'ils peuvent être en avant de ce bâtiment, ou la violence qui en effet existe dans toutes les choses, dans notre existence même sur Terre, il y a construit sur de la violence. Qui, bien sûr, on voit un bâtiment et on pense pas. Même ici, on est ici à Berlin, où c'est une entière ville qui a été vraiment anéantie par la guerre à cause d'un régime criminel hitlérien, etc. Mais quand on est dans la rue, on voit seulement les bâtiments et on oublie ce qui était.
Il y a ce que vous cadrez, il y a beaucoup ce qu'on ne voit pas, mais qu'on imagine notamment par la parole, et notamment la scène du suicide, vous ne la filmez pas, mais en revanche, Orsolia va la raconter et la répéter, en donnant presque de plus en plus de détails, y compris des détails très terre-à-terre et sordides, où les questions d'urine, les questions de matière fécale. Est-ce que vous vouliez, d'une certaine façon, faire du spectateur le créateur des images que vous n'avez pas montrées?
Ah, ça c'est une bonne question. J'ai pas vraiment pensé à ça. Le truc à quoi j'ai pensé, mais je pense que c'est pas très réussi dans le film à cause de certaines choses que j'étais pas conscient. Mais j'ai rien contre, parce que on fait un film aussi pour découvrir des choses. C'est que premièrement, dans des traductions, c'est pas possible de traduire tout. On doit comprimer un peu. Donc il y a des détails de texte qui échappent à la traduction. Et ça, c'est un peu un problème, parce que je voulais que chaque fois qu'elle raconte cette mort, ce suicide, elle utilise de certains mots où elle allonge certains détails, où elle supprime certains détails, en prenant en considération la personne avec qui elle je parle. Je peux donner cet exemple quand elle parle avec le procureur au début du film, la première discussion. Elle parle d'une certaine manière de ne pas s'inculper soi-même juridiquement quand elle parle avec son mari. C'est une autre chose. Donc je voulais aussi faire un peu un essai, si vous voulez, à cause de cette répétition, il y a 6 ou 7, je ne me souviens pas. Et chaque fois, le choix des mots est différent, et ça peut dire quelque chose de différent. Mais à cause de traduction et à cause aussi de la rapidité de la parole, je pense que ça peut marcher mieux dans un livre que dans un film.
Comme souvent chez vous, il y a des images de l'extérieur qui s'invitent dedans. Ça peut être ces images terrifiantes filmées par des drones ukrainiens d'un soldat russe faisant exploser la tête dans une tranchée. Ça peut être un vieux film noir américain, Détour, d'Edgar G. Ulmer. On mentionne d'autres films comme le Perfect Days de Wim Wenders. Comment est-ce que ces images s'invitent dans votre cinéma, Radu Joud?
La réponse définitive, je pense, a été donnée par Godard quand il faisait le film Nouvelle Vague avec Alain Delon, seulement avec des citations, etc. Et quelqu'un a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas écrit des dialogues, etc. Il a dit, mais toutes les choses que j'ai filmées ne sont pas faites de moi. Des arbres, des voitures, des bâtiments, je n'ai pas les faits moi-même. Pourquoi je dois faire les paroles? Bon, donc ici c'est moi, bien sûr, dans mon cas, mais j'ai l'impression que tout peut entrer dans un film et peut devenir une matière pour le discours d'un film. Si on pense à Détour de Edgar G. Ulmer, c'est parce que je pensais tout le temps à ce film comme un possible film noir qui ne commence pas. C'est un peu comme Psycho à cause de la structure, ou un peu comme Détour qui parle dans le genre noir sur le manque de culpabilité de quelqu'un qui devient croix. Donc c'est à l'opposé d'une certaine manière de ce film. Et aussi concernant toutes les références, soit à Gaza, soit à Ukraine, je l'ai pensé un peu plus peut-être critiquement, parce que j'ai tout le temps l'impression que toutes ces tragédies deviennent, et c'est pas seulement un jugement, c'est seulement un pensée comme ça, deviennent après un moment, ou même dans le moment quand il se passe, pas seulement des spectacles, ou des spectacles pour les news, ou pour l'internet, mais aussi où quelqu'un doit, comme une obligation, de dire j'écris ça sur Twitter, sur Instagram, donc j'ai fait mon devoir, ou même plus cyniquement, les gens comparent. Et il dit, mais voilà, ici c'est pas Ukraine, ici c'est pas Gaza, ici c'est pas 7 octobre, ici c'est pas, je sais pas. Donc je trouve ça un peu affreux, même si peut-être on le fait plus qu'on est conscient de ça. c'est un peu un critique autour de ça, je pense, je sais pas.
Merci beaucoup, Radu Jaune.
Merci à vous, merci.
Gaudeamus igitur, juvenesum sumus. Gaudeamus igitur, juvenesum sumus.
Continental 25 de Radu Jaune devrait sortir en salle le 24 septembre. La Berlinale, on va en reparler dans un instant, elle se termine ce soir, mais il y a toujours une bonne raison d'aller à Berlin, une excellente même, puisque s'y tient en ce moment et jusqu'au 6 avril une exposition exceptionnelle qui, à la Neue Nationalgalerie, rassemble l'intégralité des slideshows de Nan Goldin, ses projections montées et sonorisées par ses soins de son enivrant et bouleversant travail photographique depuis le début des années 80, comme des films qui racontent aussi bien le New York Underground et la drogue que l'enfance et la sororité. Ça s'appelle This Will Not End Well, ça va mal finir et on ne saurait mieux dire, à ne pas rater. À ne pas rater non plus notre prochaine séance France Culture, c'est mardi à 20h30 au MK2 Bibliothèque à Paris. On y montrera en avant-première Maman Déchire et sa réalisatrice Émilie Brisavoine. On débattra après avec vous comme il se doit. Ceci annoncé, retour à Berlin avec un condensé sonore de ce qu'on a pu y voir ces 10 derniers jours.
Mon Dieu. Ja, da. Hier ist kein Monier. Reservierungsnummer, bitte.
Nein.
Ja, das tut mir leid, dann kann ich nichts für Sie tun. Sie müssen vorreservieren. Anders läuft das nicht hier.
Ich brauche noch ein Zimmer, bitte.
A ver. Déjamelo.
Elizabeth.
Larry.
My irreplaceable Elizabeth.
I'm so happy to see you.
Je suis trop content de te voir.
Pareil. C'est renfort.
Mais oui, toi aussi, il est beau. Il a mis sa petite laine. Là, je n'en peux plus. Donc dès que je peux, je déjeune dehors. Tu sais que je tuerais, hein, moi, pour aller au bureau tous les jours.
Was? Warum?
Egal.
Keine Sorge, das musst du doch gleich sagen. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt.
Schon okay.
Nein, das geht nicht. Das darf die doch nicht machen.
Sophia! You didn't answer your phone. Sophia!
Tereza, o chefe mandou chamar. Quer falar com a senhora?
Voilà, quelques-uns des 19 films en compétition cette année pour l'Ours d'Or, dont seulement deux Français, signés par des Françaises, Léonore Serrail et Lucille Adzihalilovic, pour leurs respectifs Harry et La Tour de Glace. De ce qu'on a pu y voir et à lire vos papiers dans Le Monde, Mathieu Macheret, la 75e édition de la Berlinale, sous la direction artistique pour la première fois de l'américaine Trisha Tuttle, nous a montré des mères plus ou moins indignes et des enfants au mystérieux pouvoir, des Chinois de retour à la Terre, et des surplace maniéristes. Qu'est-ce que tout ça dit du cinéma aujourd'hui tel qu'il se manifeste en festival, Mathieu Macheret ?
Oh ben on voit des équilibres bouger. Moi je me méfie toujours un petit peu de cette croyance selon laquelle un festival fixe un état du cinéma, un état du monde. Bon, on a des pistes, c'est toujours très partagé un festival. On a des pièces d'un puzzle qui s'assemblent et qui se complètent avec les autres festivals de l'année. Et le Berlin de cette année, il est assez en continuité avec les années précédentes. Il y a eu des réajustements dans les sections, il y a eu un rééquilibrage, peut-être moins de films aussi, mais en tout cas une compétition d'assez bonne tenue, il faut bien le dire, qui présentait pas mal de films stimulants, peut-être pas de chefs-d'œuvre à part entière, quoique, mais en tout cas plusieurs bons films. En effet, Living the Land, qui représentait la sélection chinoise et qui était un film, une chronique paysanne, une chronique rurale sur un petit village du Henan dans les années 90, mais avec un regard très ethnographique, une passion pour décrire les cérémonies d'enterrement, de mariage et une précision qui fleurait bon le temps retrouvé. Il y avait une façon comme ça d'essayer de retrouver des gestes, des matières et surtout cette terre que les paysans investissent. On peut citer aussi parmi ces films qui creusait le motif de la parentalité, d'une parentalité difficile qui ne va pas de soi, une filiation qui se perd. Harry de Léonore Serraille avec Adranik Manet dans le rôle d'un jeune prof de maternelle qui perd pied, qui s'arrête, qui prend une disponibilité, puis qui va rencontrer des gens. La suite de conversation était un des grands motifs du festival. C'est le cas dans Harry qui travaille un naturalisme plutôt sensible. Suite de conversation, c'est ce qu'on a aussi, vous l'avez dit, dans Continental 25, dans Radu Joudé, on en reparlera. On cite deux films qui sont des espèces de saillies formalistes assez délirantes. Il y a évidemment le film d'Hélène Cattet et Bruno Forzani, Reflet dans un diamant mort, qui est une sorte de relecture, comme ils le faisaient d'habitude, des genres populaires du cinéma italien des années 70. Ils avaient fait le giallo, ils avaient fait le western spaghetti. Là, c'est une relecture un peu de l'eurospy, très maniériste, un peu dans l'esprit du danger diabolique de Mario Bava. Et puis La Tour de glace de Lucie Ladi-Halilovic, qui est peut-être son film le plus convaincant, je trouve, qui est une sorte de conte, mais un conte moderne remis au jour des années 70. C'est La Reine des Neiges, pardon, avec Marion Cotillard dans le rôle d'une star de cinéma qui va prendre sous son aile un peu vénéneuse une petite orpheline qui traîne dans les parages d'une ville alpine. Et puis, dans ce que le festival avait peut-être de plus fort à nous proposer, il y avait une revenante américaine, si je puis dire, Mary Bronstein, qui n'avait pas tourné depuis 17 ans, qui fait un peu partie de la galaxie des frères Safdie avec If I Had Legs, I'd Kill You, un film totalement fou, une comédie psychotique sur une mère, encore une fois, qui perd les pédales, qui s'occupe d'une petite fille en grande difficulté, qui essaye de travailler en même temps et dont le quotidien se délite totalement. Et le film est une espèce de caisse de résonance complètement folle, fait de bruit, de plans très serrés et d'un espèce de vortex qui nous entraîne dans le délire de cette mère qui perd les pédales.
Parce que la petite fille, on ne la voit jamais.
On ne la voit jamais. Le hors-champ, c'est vraiment une des grandes dimensions aussi. On en parlait du festival, hein, une façon de ne pas filmer pour suggérer. Hein, et ici, c'est vraiment l'espace sonore qui crée quelque chose. Continental 25, vous en avez beaucoup parlé, Antoine. Juste spécifier que pour moi, c'est le film le plus fort de la compétition. Radu Joudé, vraiment, peut-être aujourd'hui, ce que la nouvelle vague roumaine a produit de meilleur, c'est un pamphlétaire, il est très féroce. Le film a à la fois une espèce de désespoir et de drôlerie qui est très énergisante. Et juste pour rappeler ce petit point de détail, Radu Joudé, il a juste à poser une caméra dans la rue, il a juste à filmer une façade, et c'est toute une archéologie qui remonte, c'est tous les problèmes du monde contemporain qui apparaissent, les publicités qui défigurent le paysage, tout cela dans le simple geste de poser une caméra dans la rue. Et puis, on peut citer aussi, pour terminer, un Américain qu'on aime beaucoup, Richard Linklater, avec un petit prototype très intéressant, encore une fois, un de ses films modestes et à la fois ambitieux dont il a le secret, où là, il filme en mars 43, une petite soirée, une soirée qui se donne à l'issue de la première d'un spectacle de comédie musicale, qui est une anecdote biographique autour d'un compositeur, Lawrence Hart, enfin plutôt un parolier, qui se détache du compositeur Richard Rogers. Et tout est filmé dans une soirée, dans une unité de lieu et de temps. Et c'est voilà toute une vie, toute une biographie qui remonte à la surface. Le film aurait pu être théâtral, il est très émouvant. Et c'est Ethan Hawke qui est dans le rôle de ce parolier, de ce musicien, qui, encore une fois, comme souvent dans les films de Richard Linklater, nous fait vraiment battre le cœur.
Et le film s'appelle Blue Moon.
Et le film s'appelle Blue Moon, bien sûr. Before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Merci Mathieu Macheret. Résultat des courses, ce soir, on verra si Todd Haynes et son jury auront partagé votre regard. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, on le dédie avec tristesse au grand cinéaste malien Souleymane Cissé, dont on a appris la disparition mercredi. À la prise de son aujourd'hui, Noé Chaban. L'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel. Now I'm no longer alone.
a love of my own.